VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahman Dia, la présentation de cette édition de 17h30, temps universel. On est lundi 24 juillet 2017, au sommaire. Le nord-est du Nigeria encore frappé par un double attentat qui a fait 4 morts dans un camp de déplacés. Nous ferons le point sur la situation tendue à Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique, au lendemain de la mort d'un casque bleu marocain.
La population s'est beaucoup vidée. Il y en a qui sont partis dans les environs, dans les communes, et d'autres ont traversé carrément donc à la République démocratique du Congo.
Interview à suivre dans la partie magazine de cette édition. La tension est toujours vive à Jérusalem avec une forte mobilisation pour éviter l'escalade de la violence. Ici aux États-Unis, le gendre et conseiller spécial du président Donald Trump était devant la commission du renseignement du Sénat pour s'expliquer sur ses rencontres avec des Russes. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Plusieurs personnes suspectées de complicité avec les groupes terroristes au Mali ont été arrêtées récemment par la force française Barkhane et l'armée malienne. Deux d'entre elles sont considérées comme des fournisseurs d'armes. Selon l'AFP, qui cite une source sécuritaire, l'un des hommes arrêtés effectuait des va-et-vient entre Gao et Mopti pour ravitailler les terroristes en armes et munitions. Le président nigérien Muhammadu Buhari devrait rentrer à Abuja d'ici à 2 semaines. C'est ce qu'a annoncé un gouverneur qui faisait partie de la délégation qu'il a reçue hier à Londres, où il se trouve depuis 2 mois pour des traitements. L'absence prolongée du président Buhari, 74 ans, suscite des spéculations au Nigeria sur son état de santé. Sur le terrain au Nigeria, 4 personnes ont été tuées dans un double attentat suicide dans un camp de déplacés proche de Maïdougouri. Le point avec Dili Diko.
L'attaque a eu lieu hier soir dans le camp de déplacés de Dalori 1 qui accueille environ 50 000 déplacés. Selon Abdul Kadir Ibrahim, des services de secours, 2 kamikazes, un homme et une femme, se sont fait exploser, tuant 3 personnes et faisant 17 blessés. Le chef de l'agence de gestion des urgences de l'État du Borno, Hamed Satori, a annoncé qu'une autre personne était décédée, portant le bilan à 4 morts. Un second incident s'est déroulé hier soir, cette fois au camp Dalori 2. Le kamikaze a été intercepté et tué. Monsieur Sartori a ajouté qu'un autre kamikaze était mort ce lundi en tentant d'entrer dans l'université de Maïdougouri, qui a été visée à plusieurs reprises depuis le début de l'année.
La situation politique apparaît tendue, toujours bloquée. La situation politique qui apparaît toujours bloquée en République démocratique du Congo, où la mise en place d'une instance de sortie de crise a été immédiatement rejetée par une bonne partie de l'opposition. Samedi, les autorités congolaises ont installé un conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016, mais la nomination de son président, Joseph Olenga Koy, qui dirige un petit parti de l'opposition, ne fait pas l'unanimité. Un casque bleu marocain a été tué à Bangassou dans le sud-est et 3 autres blessés en Centrafrique. La MINUSCA accuse des miliciens anti-Balaka d'être les auteurs de cet assassinat. 6 casques bleus ont déjà été tués en mai dernier à Bangassou. Nous reviendrons sur cette situation dans cette partie de la Centrafrique dans la partie magazine. Un cadeau qui fait polémique au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a offert un chèque de 60 000 dollars pour l'anniversaire de sa belle-sœur à l'heure où le pays traverse une grave crise économique et une pénurie de liquidités. Selon la presse locale, le président de 93 ans et son épouse Grace ont donné 60 000 dollars à Madame Junior Gumbakchuma pour la remercier pour son rôle dans l'éducation des enfants de la famille présidentielle. Dialogue interlibyen à Paris, le premier ministre du gouvernement d'Union nationale Faïd Al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar se rencontrent demain près de la capitale française sous l'égide du président Emmanuel Macron. Ils seront reçus tour à tour par le chef de l'État français avant une réunion tripartite en présence du nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salam, qui prend ses fonctions cette semaine. Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à 2 reprises sans résultat.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Jared Kushner, le gendre et conseiller du président américain Donald Trump, a reconnu avoir rencontré des Russes à 4 reprises pendant la campagne électorale, mais a démenti toute collusion pour faire gagner son beau-père. Le point avec Solange Nyamulisa.
Jared Kushner passe devant la commission du renseignement du Sénat, mais la séance est à huis clos. Dans une note liminaire de 11 pages qu'il doit lire, il a écrit qu'il n'a pas commis de collusion et ne connaît personne dans l'équipe de campagne qui a été en collusion avec un gouvernement étranger. Monsieur Kushner décrit ses contacts avec l'ambassadeur de Russie à Washington, Sergei Kislyak, et d'autres responsables russes comme faisant partie de ses tâches normales lorsqu'il s'occupait des relations avec les gouvernements étrangers au sein de l'équipe de campagne de Monsieur Trump. Des membres influents de cette équipe ont omis de rapporter leurs contacts avec les Russes et sont soupçonnés de collusion. Pour se défendre, M. Trump a souvent fait cas des démentis répétés du président russe Vladimir Poutine après leur rencontre au récent G20 de Hambourg.
La tension est vive à Jérusalem-Est et en Cisjordanie après la mise en place le 14 juillet par Israël de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des mosquées. Le point avec Yacouba Ouitraougo.
Israël a mis en place ses détecteurs de métaux après une attaque où 2 policiers israéliens sont morts près de l'esplanade des mosquées. Depuis vendredi, jour de la grande prière, au moins 3 Palestiniens ont été tués dans des heurts avec les forces israéliennes. Un Palestinien armé d'un couteau a tué 3 Israéliens au nord-ouest de Ramallah. Israël a annoncé l'arrestation d'au moins 25 personnes et essaie de trouver une solution aux détecteurs de métaux. Samedi, le président turc Recep Tayyip Erdogan, président de l'Organisation de la coopération islamique, a qualifié d'inacceptable la mise en place de ces détecteurs. Il a convoqué une réunion de l'OCI le 1er août à Istanbul. Jason Greenblatt, émissaire pour le Proche-Orient du président américain Donald Trump, est en Israël pour tenter de calmer la tension. Les entrées de l'esplanade sont contrôlées par Israël, mais le site est géré par la Jordanie. La mosquée Al-Aqsa, 3e lieu saint de l'islam, se situe sur cette esplanade, tout comme le mont du Temple, lieu saint du judaïsme.
Le prince saoudien Mohamed Ben Salman, désigné le mois dernier héritier du trône, a pris ce lundi temporairement les rênes du pouvoir en l'absence de son père, parti en visite privée à l'étranger. Par décret, le roi Salman a chargé son fils Mohamed, de 31 ans, de gérer les affaires de l'État et de défendre les intérêts du peuple durant sa visite privée à l'étranger. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé ce lundi à Doha dans le cadre d'une tournée pour tenter d'apaiser les tensions entre le Qatar et 4 pays arabes. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont rompu le 5 juin dernier leurs relations diplomatiques avec le Qatar, qu'ils accusent de soutenir le terrorisme et de se rapprocher de l'Iran. Au Koweït, un député a déposé devant le Parlement une proposition de loi prévoyant des peines de prison allant jusqu'à 20 ans contre les partisans du Hezbollah et qualifiant de terroriste le mouvement chiite libanais. La proposition intervient après une protestation du Koweït contre le Hezbollah, mise en cause dans une affaire de cellules composées notamment de 21 chiites koweïtiens et dont les membres viennent d'être condamnés pour complot terroriste. Les chiites représentent le tiers de la population autochtone de Koweït, estimée à 1,35 million de personnes. L'explosion d'une voiture piégée a fait au moins 26 morts ce matin dans l'ouest de Kaboul, quartier de la communauté Hazara, chiite déjà durement touchée il y a un an par le groupe État islamique. L'attaque a également fait plus d'une 40aine de blessés selon le gouvernement. Salwa Jafari.
Lundi, 7h du matin, c'est l'heure de pointe à Kaboul. Un bus transportant des employés du ministère des Mines est percuté par une voiture piégée au milieu d'un quartier à majorité chiite.
2 voitures brûlées, on pouvait voir des corps éparpillés un peu partout. Plusieurs magasins ont été incendiés, c'était horrible. Tout le monde essayait de fuir, y compris les femmes et les personnes qui partaient au travail.
Le gouvernement a par ailleurs accusé les talibans d'avoir incendié dimanche un hôpital de la province de Gore dans le centre du pays et d'avoir tué 37 civils, une accusation rejetée par les talibans. En revanche, ils ont revendiqué l'attentat à Kaboul. Les talibans poursuivent leur offensive de printemps sur de multiples fronts et ont récemment accentué la pression sur les forces régulières.
Les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, ont annoncé qu'elles allaient lancer leur parti politique le 1er septembre. La plus importante guérilla de Colombie a signé un accord de paix avec le gouvernement en novembre 2016, après un conflit de 53 ans. L'accord de paix conclu au terme de 4 ans de négociations à Cuba prévoyait la transformation des FARC en parti politique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nathalie Barge.
Le patron de la compagnie minière Randgold a dénoncé à Abidjan le développement de l'orpaillage illicite qui pourrait menacer la construction d'une mine de classe mondiale en Côte d'Ivoire. Le Sud-Africain Denis Mark Bristow a annoncé un investissement de près de 300 millions de dollars pour développer des mines de cet ordre en Afrique. Les fonds sont destinés au projet Boundiali en Côte d'Ivoire, Massawa au Sénégal et à l'extension de la mine de Loulo-Gounkoto au Mali. Le FMI vient de réviser à la hausse ses perspectives de croissance avec une légère hausse pour l'Afrique subsaharienne. Ceci est dû notamment à une amélioration des perspectives pour l'Afrique du Sud qui enregistre une récolte exceptionnelle grâce à une meilleure pluviométrie et une augmentation de la production minière. Le Nigeria, qui poursuit également son rattrapage, devrait afficher une croissance de 0,8% cette année et se hisser à 1,9% en 2008. L'Algérie a enregistré un déficit commercial de 4,84 milliards de dollars de janvier à juin, une baisse de plus de 54% par rapport au premier semestre 2016 grâce à une remontée des cours du pétrole. Les exportations ont augmenté à plus de 18 milliards de dollars contre 13 milliards 200 millions sur la même période, soit une hausse de 36%. Et les exportations d'hydrocarbures affichent une hausse de plus de 38%.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Suite des Jeux de la Francophonie à Abidjan, les résultats de ce lundi.
Oui, le Maroc domine les 800 mètres hommes et dames. Malika Kawi a enlevé la médaille d'or devant Noélie Yarico. Son compatriote Oussama Nabil a fait pareil chez les hommes en 1 minute 46 secondes devant celui annoncé pourtant favori, l'autre Marocain Mustapha Ismaïla. Le royaume chérifien décidément à la fête avec un autre doublé aux 3000 mètres steeple hommes. Le Sénégalais Amadou Ndiaye médaillé d'argent sur 400 mètres haies. En basket, chez les dames, le Niger battu 42-45 par la Guinée. À suivre chez les hommes, Côte d'Ivoire, Gabon, Québec, Cameroun et Roumanie, Tunisie. En foot, on aura France, RDC et Canada, Haïti. À noter la victoire ce week-end au marathon du Congolais démocratique, Makoro Bando Sakunkombo, qui devance le Marocain Fatih Abdennasir et le Béninois Daouda Korongo.
En football, Benjamin Mendy devient le défenseur le plus cher de l'histoire.
Oui, c'était annoncé, c'est désormais officiel. Après plusieurs semaines de négociations, Benjamin Mendy s'est officiellement engagé avec Manchester City. L'international français a signé un contrat de 5 ans tandis que le club anglais a déboursé 57,5 millions d'euros pour s'attacher les services du Monégasque.
Les résultats du second tour, retour des éliminatoires du CHAN 2018.
Oui, les Comores ont obtenu leur qualification aux dépens du Lesotho pour affronter la Namibie au prochain tour. Ça passe aussi pour Madagascar, vainqueur 2-0 du Mozambique à Maputo. Prochain adversaire, l'Angola qui a éliminé l'île Maurice 3-2. Afrique du Sud, Zambie sera la dernière affiche dans cette zone pour le dernier tour. Dans la zone ouest B, le Bénin élimine le Togo. Au tir au but, 8-7, 1-1 après le temps réglementaire, même score à l'aller. Les écureuils qui vont donc affronter le Nigeria au dernier tour. Dans la zone ouest A, le Sénégal élimine la Sierra Leone 3-1. Au tour suivant, les Lions de la Teranga seront opposés à la Guinée vainqueur de la Guinée-Bissau 7-0. Qualification également du Mali et de la Mauritanie. Au centre Est, l'Ouganda passe devant le Soudan du Sud, tout comme le Rwanda face à la Tanzanie. Les deux équipes s'affronteront au tour final.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour en Centrafrique. Nouveau regain de tension à Bangassou, dans le sud-est du pays, où l'on a enregistré la mort d'un casque bleu et des blessés dans des accrochages qui ont opposé hier le contingent marocain de la MINUSCA à des assaillants anti-Balaka, selon la mission onusienne. Signalons aussi que la cathédrale où se sont réfugiés les déplacés a subi d'importants dégâts et de nombreux cas de vandalisme. Écoutons l'abbé Alain Blaise Bissaolo de la cathédrale de Bangassou, joint par Félix Yepassi Zembro.
À l'heure actuelle à Bangassou, c'est une situation tendue. La population s'est beaucoup vidée. Il y en a qui sont partis dans les environs, dans les communes, et d'autres ont traversé carrément donc à la République démocratique du Congo.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Cette tension a pris naissance depuis jeudi exactement, quand il y a eu distribution de vivres PAM à tous les déplacés qui sont au niveau du site du petit séminaire de Bangassou. À partir de jeudi, on a commencé à distribuer ces vivres PAM aux déplacés qui étaient des non-musulmans, et donc ceux du site n'ont pas voulu que ceux qui étaient déjà partis chez eux puissent venir en bénéficier. Et c'est là où les incidents ont commencé, le jeudi même déjà, et le vendredi aussi. Donc, ils se sont permis de séquestrer des humanitaires qui assuraient la distribution de ces vivres. Donc, les anti-Balaka, ils ont séquestré, donc aussi pris en otage une jeune dame. Et après, les humanitaires ont été pris en otage. Ça faisait 8 personnes avec leur famille. Et ça crée une tension terrible au niveau de la ville. Et pendant ce temps, dans l'après-midi de vendredi, donc les gens du site en ont profité pour pouvoir saccager, vandaliser donc l'évêché de Bangassou et en même temps mis le feu. Heureusement que les archives n'ont pas été brûlées parce qu'on a réussi quand même à tout éteindre à temps. C'est cette tension-là qui a commencé donc depuis le jeudi et puis qui s'est généralisée jusqu'à aujourd'hui où hier on a enregistré donc ce casque bleu marocain. Mais il y a eu des décès. Il y a eu aussi des décès du côté des autodéfenses qu'on n'a pas encore dénombrés. Et puis, il y a eu aussi des décès d'un civil qu'on est en train de faire enterrer aujourd'hui.
Ces autodéfenses, dit-on que ce sont les anti-Balaka. Est-ce exact, M. Labbé?
Eux-mêmes disent que leur nom, ce sont des autodéfenses. Ils ne sont pas des rebelles, ils ne sont pas des anti-Balaka.
Ce nouveau regain de tension ne va-t-il pas augmenter d'un cran la tension qui prévaut déjà dans la région?
Le regain de tension actuel est tout simplement dû aux conditions assez difficiles de la vie des déplacés qui sont sur le site. Déjà, il faut savoir et reconnaître quand même que l'espace, la superficie même du site exigu ne peut pas contenir les 2000 personnes. Et puis, deuxièmement, il faut savoir aussi que les conditions durcies aussi par le fait que pour trouver l'eau était très difficile dans ces derniers temps. Et en même temps aussi, la peau de chance n'a pas permis donc à ce site d'avoir accès donc à la nourriture, surtout au niveau du marché. Et en même temps aussi, où avoir les gens qui peuvent venir vendre leurs marchandises au niveau du site, tout a été donc bloqué ici. C'est ça qui est en train d'engendrer tout cela.
C'était l'abbé Alain Blaise Bissaolo de la cathédrale de Bangassou.
À votre avis, ce soir à 18h, temps universel sur VOA Afrique, la démographie et la santé au menu des parlementaires de la CEDEAO réunis dans la capitale burkinabé. Ils ont convenu d'augmenter le budget annuel de la santé à 2%. Et ce n'est pas tout, la CEDEAO préconise à limiter les naissances à 3 enfants par femme d'ici 2030. Que pensez-vous de cette politique? Faut-il légiférer pour atteindre l'objectif visé? Laissez-nous vos numéros et commentaires ou appelez au 001 202 205 26 33. Rendez-vous ce soir sur VOA Afrique en compagnie d'Eric Manilakis.
Les habitants de Bujumbura brouillent du noir face au manque d'électricité, une situation qui dure depuis des mois et cela pousse beaucoup à changer leurs habitudes pour s'adapter. Reportage de Christophe Kourounziza dans la capitale burundaise.
30 minutes, une ou deux heures de disponibilisation de l'électricité dans mon homme de quartier de Bujumbura par jour, une ville devenue fantôme la nuit par manque de courant. Ce jeune homme de 28 ans habite le quartier populaire de Buyenzi à majorité musulmane. Son quartier peut passer trois jours sans électricité, une raison qui l'a amené dans le quartier de Roero proche pour relier son travail de mémoire de fin d'études universitaires alors qu'il était capable de le faire à la maison si le courant était disponible. Témoignage.
Ici, où vous me trouvez, je suis en train de réaliser mon travail de fin d'études universitaires. Si j'ai l'électricité là-bas au domicile, je peux écrire à la maison. Mais suite à l'absence de l'électricité, je me rends au cyber pour faire réaliser mon travail. Ça me cause beaucoup de problèmes parce que nous payons beaucoup d'argent. Quand on est en train de réaliser les activités domestiques pendant la nuit, ça me cause beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a pas de l'éclairage. Aussi, les enfants veulent jouer à la maison, mais suite à l'obscurité, les enfants restent au lit.
Dans les zones de Moussaga, Kamenge, Ngagara, Nyakabiga et Jabé, des habitants se plaignent qu'il leur est difficile de se présenter au travail avec des habits repassés, car le délestage ne dure que quelques minutes journalièrement. Et les conséquences sur leur vie au quotidien sont néfastes, comme le témoignent ses parents de quatre enfants qui ne voient plus de l'eau froide.
En fait, nous avons retourné dans le système classique, et là où on allait s'habiller des habits qu'on a mis sous les matelas, comme on le faisait à l'interne. Bientôt, parce que la rentrée scolaire, est-ce que les enfants vont étudier comment? Si vous avez soif, vous ne pouvez pas boire de l'eau chaude. Nous avons conservé les frigos.
D'autres habitants de la mairie de Bujumbura demandent que le délestage électrique se fasse d'une manière équitable, car les quartiers des personnes assez aisées comme celui de Kiriri, près des hauteurs surplombant la capitale, n'en manquent jamais. La vie de cette femme a changé depuis plusieurs mois.
On faisait des stocks, on mettait au frigo pour une période donnée. Maintenant, ce n'est plus possible. On doit passer au marché tous les jours. La gestion du ménage en général est perturbée. Même pour les enfants, il y en a qui s'amusent avec la télévision. C'est vraiment difficile.
Beaucoup d'habitants de la capitale s'indignent de cette situation alors qu'ils affirment payer annuellement les impôts. Ils digèrent très mal comment leur vie au quotidien a changé par manque de courant électrique. Mais les autorités burundaises ont indiqué à la radio-télévision nationale que ce manque de courant électrique sera comblé le mois d'août prochain. Wait and see, comme disent les Anglais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Côte d'Ivoire, de nombreux Ivoiriens dénoncent la cherté du coût de la vie. Et face à cette situation, le gouvernement vient de procéder à l'installation du Conseil national de lutte contre la vie chère. À Abidjan, les précisions de Georges Ibrahim Tonkara.
Le 16 juillet dernier, le premier ministre ivoirien Amadougon Koulibaly procédait à l'installation officielle du Conseil national de lutte contre la vie chère, une instance chargée, dit-il, de mobiliser tous les moyens en vue d'assurer de meilleures conditions d'accès aux produits de consommation courante. Depuis des années, les Ivoiriens se plaignent du coût très élevé des produits de première nécessité. Michel Okwadio est couturier et père de trois enfants. Il dit éprouver de grandes difficultés pour joindre les deux bouts.
Justement, la vie chère. Maintenant, tout augmenté maintenant. Les loyers, la nourriture, le transport, même, c'est pas facile. La vie est très chère. J'ai trois enfants et une femme. Bon, là, on essaie de faire le peu que Dieu nous donne, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Si c'est dans la grâce de Dieu qu'on vit, sinon, c'est pas facile. C'est dur, c'est très dur.
Très dur pour joindre les deux bouts, pour se nourrir, se loger et se déplacer. Le Conseil national de lutte contre la vie chère pourra-t-il apporter des solutions concrètes aux angoisses des Ivoiriens? Marius Komoué est le président de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Il dit ne pas se faire d'illusions.
Le Comité national de lutte contre la vie chère ne va pas initier des politiques de production locale de riz. Un comité pour se réunir pour évaluer naturellement la cherté de la vie et faire des propositions à qui? Mais les gouvernants savent ce qu'ils savent. Ils savent que le marché est cher. Est-ce que c'est le Comité de lutte contre la vie chère qui est la structure qui est distributrice, qui détient naturellement le monopole naturellement dans le secteur de distribution? On ne peut rien attendre d'un comité national futur de lutte contre la vie chère.
Pour Marius Komoué, il faut plutôt mettre en place des véritables politiques en vue de l'autosuffisance alimentaire.
Il faut aujourd'hui demander au ministère de l'Agriculture de s'engager dans une véritable politique permettant naturellement à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en matière de produits vivriers. Pareil pour le ministère de la production animale. Mais il n'y a pas que ça. La vie chère, c'est également l'école, c'est également le transport, l'électricité et l'eau. C'est le coût des loyers, le coût des matériaux de construction des loyers qui font que le coût des loyers sont sont exorbitants.
L'une des explications de la cherté du coût de la vie serait aussi la multiplication des taxes perçues par l'État. Smaro Ben Mfali, président d'une autre organisation de consommateurs et membre du Conseil national de lutte contre la vie chère.
Il faut faire très attention avec les différentes taxes que l'État crée et prélève régulièrement et de façon souvent abusive sur les entreprises et les opérateurs économiques.
Même s'ils disent ne pas attendre grand-chose de cette structure, les Ivoiriens espèrent tout de même une baisse du coût de la vie. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Conférence internationale sur le sida à Paris. Pour la première fois, le monde enregistre plus de malades sous traitement. Le taux de mortalité baisse de plus de 50% dans la plupart des pays, d'après le programme de coordination de l'ONU contre ce fléau. Ouverte dimanche, cette conférence qui réunit plusieurs chercheurs et associations se termine mercredi. Pour en savoir davantage, Eric Manirakiza a joint à Paris le patron de l'ONU SIDA, Michel Sidibé.
On montre clairement qu'on peut briser la colonne vertébrale de cette maladie. Cela se traduit par une augmentation de l'espérance de vie en Afrique australe qui passe de 48 ans à 58 ans. Donc, il y a des transformations réelles. On a moins d'enfants qui naissent avec le sida, mais il y a aussi des craintes, énormément de craintes. On voit qu'on n'arrive pas à atteindre les enfants, particulièrement lorsqu'ils sont malades. On a plus d'1,2 million enfants qui attendent le traitement qui ne l'ont pas. On a en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, les progrès ne sont pas comparables aux progrès que nous réalisons en Afrique australe et en Afrique de l'Est. On n'a que 35% des malades qui ont besoin du traitement qu'ils ont. Et nous savons aussi, malheureusement, qu'il faudrait plus d'argent.
Au niveau du traitement, il y a eu cette avancée qui a été signalée, notamment en introduction d'une injection à la place de la prise des comprimés. Quand est-ce que ce traitement va commencer à être administré?
Vous avez raison de le mentionner. Pratiquement, on aura certainement une injection pour les malades et probablement on va commencer à l'expérimenter dans les mois à venir. Cette injection permettra une couverture de 2 mois, mais on pense qu'il y aura même d'autres découvertes comme des implants qui vont permettre d'avoir une couverture encore plus longue. C'est vraiment un moment intéressant au niveau de la recherche scientifique en termes de lutte contre le sida. On continue à se battre pour le vaccin, on continue à se battre pour la cure, on dépiste beaucoup plus de personnes. On a au moins 25 500 000 personnes.
En cas encourageant, cet enfant sud-africain qui, aujourd'hui, le virus n'est plus détectable dans son sang.
On a 3 cas comme ça. On a eu le cas du bébé de Visconti. On a maintenant le cas de l'Afrique du Sud. Et les chercheurs attendent pour être confirmés parce que ça peut être pratiquement une suppression immunitaire qui peut être provoquée par le système immunitaire lui-même ou comme ça peut être l'impact surtout du traitement au début. Pour l'instant, on attend et on essaye de mieux analyser et voir ce que les chercheurs vont dire à ce sujet.
C'était Michel Sidibé, le directeur exécutif de l'ONU SIDA. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi à la mise en onde de Joselle Morissin, à la console John Dryden, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook, au rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.